France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
25 000 euros de la puberté à la ménopause. Voilà ce que dépense en moyenne une femme dans sa vie pour se payer des protections hygiéniques. Une somme conséquente et 4 millions de Françaises qui chaque mois n'ont pas les moyens d'acheter des tampons, des serviettes, des coupes ou des culottes de règles. C'est ce qu'on appelle la précarité menstruelle, un sujet longtemps tabou et dont les politiques ont tardé à s'emparer malgré l'enjeu sanitaire et social. Il y a 2 ans, une loi a été finalement votée, le remboursement des protections réutilisables pour les moins de 26 ans, sauf que le décret n'a toujours pas été publié. 2 ans après, rien n'a encore bougé. Alors ce soir, on se pose la question, faut-il enfin faire de cette lutte contre la précarité menstruelle une priorité? On questionnera aussi, car c'est évidemment lié, le tabou autour des règles. Même si, sur les réseaux sociaux, depuis quelques années, la parole s'est libérée, a-t-on encore du mal dans la sphère publique ou privée à parler sérieusement et tranquillement de ces sujets, des règles, de leurs coûts, de leurs impacts dans nos vies. Faut-il sensibiliser davantage les filles, mais aussi les garçons, les mères comme les pères? Congés menstruels, précarité, santé des femmes en règle générale, vous nous direz aussi ce que vous attendez des pouvoirs publics, vos témoignages et vos questions à nos invités au 01 45 24 7000 au téléphone ou par message WhatsApp, on est ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et en ligne avec nous pour commencer ce soir, David de Nantes. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, David.
Eh bien, écoutez, votre introduction en dit long. Tout simplement, je m'interroge encore maintenant. Il y a eu un décret qui a commencé à essayer de régler le problème, alors que, on hésite encore. On ne trouve pas ce sujet comme un sujet grave, alors que c'est une inégalité totale entre les hommes et les femmes, que les femmes aient à supporter ce poids financier, et que pour certaines et pour beaucoup de femmes seules, avec leurs enfants ou avec ou même d'autres personnes avec des moyens limités, n'aient pas la possibilité de s'acheter le simple hygiène, qui est important pour toute la nation. C'est quand même les femmes qui sont là pour procréer, et c'est un frein
même
pour la natalité et pas que les femmes, effectivement. Alors moi personnellement, je trouve qu'on peut mettre en exergue cet remboursement qui pourrait être fait aux femmes, alors qu'on se pose pas la question que quand il y a un monsieur ou n'importe qui va chez son médecin parce qu'il a un rhume, on va lui rembourser ses médicaments pour le rhume, alors que on sait très bien que ça sert à rien. Donc il y a des dépenses qui sont faites, qui sont mais qui ne servent à rien, qui
ne inutile, vraiment selon ne vous.
Servent vraiment inutiles. Mmh. Et à côté de ce problème qui est un vrai problème, qui est une vraie inégalité entre les hommes et les femmes, de pas pouvoir rembourser tout simplement de façon naturelle quelque chose qui est nécessaire à la santé publique.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, David, pour ce premier témoignage. Avec nous pour en discuter ce soir et pour répondre à toutes vos questions, Marion Goualave, bonsoir.
Bonsoir, Élodie.
Vous êtes entrepreneuse, cofondatrice d'Elia, une marque qui commercialise des culottes menstruelles fabriquées en France. Vous êtes aussi membre de la Fondation de recherche contre l'endométriose et vous avez écrit une lettre récemment pour interpeller François Bayrou sur le remboursement des protections hygiéniques réutilisables pour les moins de 26 ans. Et puis avec nous aussi en ligne ce soir, Maude Leblond, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Alors, pour commencer, peut-être tout simplement, David dit il y a un décret qui a commencé à être passé et puis finalement, ce n'est pas appliqué. Peut-être avec vous, Marion Goualave, pourquoi vous avez interpellé François Bayrou ? Expliquez-nous un peu. Il y a 2 ans, une loi a été votée et pour l'instant, rien n'est fait.
Alors, tout à fait. Il y a une loi qui a été votée sous l'impulsion d'Elisabeth Borne en 2023, qui a proposé en effet le remboursement des protections hygiéniques réutilisables. Et une loi a été votée, donc a été mise au budget de la Sécurité sociale en décembre 2023 pour une application en 2024, en septembre 2024. Et cette application a été repoussée pour différentes raisons. Mmh. Aujourd'hui, on attend la publication d'un décret pour pouvoir, en effet, pouvoir distribuer dans des pharmacies des protections hygiéniques réutilisables, saines et de qualité. Alors aujourd'hui, ce décret prend un peu plus de temps que prévu parce qu'on est dans un contexte politique un peu complexe, mais également parce qu'on est en train de définir avec la Sécurité sociale un cahier des charges qui va définir les règles de prise en charge de ces culottes menstruelles qui sont basées à la fois sur la qualité des produits, sur la durabilité du produit et sur la fabrication de ces produits-là. Mmh. Et ensuite, en effet, ce décret prend plus de temps que prévu, et ce qui met en difficulté des millions de femmes, mais aussi des entreprises qui sont prêtes à fournir et à distribuer ces produits.
Parce qu'il y avait eu un réengagement du gouvernement en mai dernier. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ce décret soit publié dans les mois qui viennent, d'ici la fin 2025 par exemple ?
En effet, il y a eu un engagement qui a été fait de la part de la ministre de l'Égalité hommes-femmes en mai dernier, qui a été renouvelé sur le site du gouvernement en juillet dernier, sur une mise en place et une application par décret de la loi qui devrait avoir lieu en 2025, donc pour la fin d'année. Aujourd'hui, l'échéance de septembre 2025 est toujours inscrite. Néanmoins, ça risque d'être très compliqué puisque aucun cahier des charges n'est réellement défini. Il n'y a pas eu d'accord de l'ANSES. Et de prix, finalement, définitif qui a été acté.
Vous avez une réponse pour l'instant de François Bayrou ?
Toujours pas.
Bon, on est au cœur de l'été, mais enfin, il est censé travailler, là, il est à Matignon. Maude Leblon, peut-être sur ce cahier des charges dont on parle, c'est peut-être un point important, parce que pour l'instant, on n'a pas forcément tous les détails de qu'est-ce qui va être remboursé, de quel produit va être remboursé, c'est ça ?
Alors, on a déjà quelques détails. Le cahier des charges comporte notamment la qualité, la qualité et la durabilité des produits. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que seules donc les culottes menstruelles et les coupes menstruelles seront remboursées dans le cadre de ce dispositif et qu'a priori, ce sera à hauteur de 2 produits par personne éligible. Et je rappelle juste, puisque vous l'avez bien mentionné, c'est un dispositif qui sera à destination des jeunes de moins de 26 ans, mais aussi des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire de tout âge. Donc c'est quand même important, ça concerne 1,5 million de personnes en plus,
donc des plus précaires,
26 ans, qui sont dans des conditions de grande précarité. C'est très important de le mentionner parce que c'est une avancée notamment par rapport à l'annonce de la ministre, de la première ministre Elisabeth Borne à l'époque. Donc c'est quelque chose qu'on a gagné, on va dire, dans le process. Donc le process est long, mais on essaye d'améliorer aussi ce dispositif. Donc effectivement, le cahier des charges est en cours de finalisation, en tout cas à ma et à notre connaissance, je pense, il est en cours de validation par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui doit valider ce cahier des charges. Il porte notamment, en tout cas notre attention, nous, c'est notamment porté sur la composition des culottes, notamment, qui seront mises à disposition. Aujourd'hui, les culottes menstruelles, elles sont pas, c'est pas des dispositifs médicaux, en fait, elles sont pas réglementées, elles sont très récentes sur le marché, et du coup, les qualités sont aussi très variées, les composants, on a entendu parler il y a quelques semaines de ça, juste la dernière étude qui a été publié par l'American Chemical Society sur justement la présence de PFAS, notamment dans ces culottes. Donc c'est très important, notamment puisque ça va servir une large population et que ça représente aussi beaucoup d'argent public, que ce dispositif soit ciblé et permette aussi au marché peut-être de proposer des produits de plus en plus sains. Donc c'est notamment sur ce point. Peut-être que je peux aussi rappeler que fin 2023, donc en même temps que ce dispositif a été ancré dans la loi de financement de la sécurité sociale, a été aussi promulgué en même temps un décret, donc le décret dit transparence, qui oblige les fabricants de protection jetable, pardon, cette fois-ci, à afficher la composition de leurs produits, ce qui était très récent aussi, voilà, et qui ne concerne pas les culottes. Donc c'est très important aussi que ces produits soient sains, puisqu'ils vont cibler une large population, et rappelons-le, des personnes de plus en plus jeunes, hein, puisqu'aujourd'hui, par exemple, 20% des jeunes filles ont leurs règles à l'école primaire.
Ouais,
donc, voilà, on parle aussi de très jeunes personnes.
On va y venir. Marion Goualave, juste sur ces deux aspects, des culottes, oui, mais attention à la composition, à la traçabilité.
Tout à fait. C'est un point majeur qu'on défend depuis 2 ans auprès de la direction de la Sécurité sociale. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien souligné, on a des produits de différentes qualités avec des matières qui sont utilisées qui ne sont pas forcément conformes. Donc nous, c'est vrai que chez Elia, on prône la transparence, mais on prône aussi la qualité des produits, la traçabilité complète de toute une filière, mais aussi de l'utilisation de produits les plus sains pour le corps. Donc en effet, on va aller pousser des tests sous contrôle gynécologique et dermatologique en conditions d'utilisation réelle pendant plus de 28 jours, parce que les protections hygiéniques, c'est pendant le cycle menstruel, pendant les règles, mais c'est en effet pendant le cycle menstruel, avec parfois des besoins sur tous les jours du mois, et donc potentiellement une protection qui doit être durable, qualitative. Et donc c'est un point qu'on pousse et qui est très important selon nous et qui est majeur, parce qu'en fait c'est de l'argent public qui va servir finalement à de la santé et on ne peut pas prendre de risques avec ça.
Il faut qu'il soit bien employé cet argent public. Peut-être avant de continuer, Maude Leblond, peut-être faire un panorama quand on parle de précarité menstruelle. Je parlais de 4 millions de Françaises, c'est ça aujourd'hui le chiffre exact?
Oui, le dernier baromètre qu'on a publié en 2023, donc juste avant l'annonce de la Première ministre, mentionnait effectivement près de 4 millions de personnes menstruées, donc en France, en situation de précarité menstruelle. Nous, ce qu'on définit comme de la précarité menstruelle, en fait, c'est le fait d'avoir des difficultés d'accès à des protections périodiques en quantité suffisante pendant ces règles, et notamment pour vivre dignement et sereinement ces règles. Donc ça suppose aussi évidemment le fait de ne pas en avoir, mais aussi le fait d'avoir des difficultés, devoir arbitrer entre différents produits de première nécessité. Nous aussi, c'est ce qu'on met en avant. Les protections périodiques sont des produits de première nécessité, mais ils ne sont pas considérés comme tels finalement, ni dans le commerce, ni auprès de la Sécurité sociale, par exemple, à ce stade. Donc ça, c'est une réalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on n'est pas toutes et tous égaux face à ce phénomène, et qu'il y a vraiment une proportion très importante de jeunes, notamment des moins de 24 ans, et ce que montrait cette étude aussi, qui sont victimes de précarité menstruelle. Près de 1 sur 2, en fait, dans notre enquête, avaient été victimes de précarité menstruelle dans les 12 derniers mois. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que cette situation, elle existe en France, bien sûr, mais elle existe aussi à plus large échelle, puisqu'on a montré aussi cette année dans notre dernier baromètre en mai 2025, qui était un baromètre européen, que la précarité menstruelle est aussi un fléau au niveau européen, puisque 42% des Européennes ont subi des situations de précarité menstruelle dans les 12 derniers mois. Donc ça représente quand même près de 50 millions de personnes à l'échelle européenne. C'est aussi pour ça qu'il faut faire émerger ces sujets, et aussi des solutions, comme celles que propose la France. Et peut-être que je peux juste dire un mot aussi de cette proposition qu'avait fait la Première ministre de rembourser des protections périodiques. C'est une proposition inédite. Aucun pays dans le monde ne l'avait mis en place jusqu'à présent. C'est presque finalement attaché un droit aux personnes qui ont leurs règles d'être bien protégées. Et en ça, c'était vraiment historique et très, très porteur. Donc on a vraiment hâte que les choses
s'en passent. Oui, parce que la seule chose qui avait été faite auparavant, je crois, c'était de baisser la TVA, parce qu'avant, c'était taxé de la même façon qu'un produit de luxe, Maude Leblond.
Oui, alors c'est ce qu'on appelait la taxe euro, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, parce que dans beaucoup de pays, elle existe encore. Donc effectivement, de passer de 20 à 5%, sachant que les produits de première nécessité, eux, sont taxés à 0%. Donc ça aurait pu être le choix qui avait été fait à l'époque. Mais effectivement, la TVA a été baissée en 2015. Et voilà. Et il y a eu d'autres expérimentations menées par l'État entre 2015 et donc 2023, avec par exemple la mise à disposition de protections dans les prisons, mais aussi dans une moindre mesure, on va dire, dans certaines universités ou dans certaines résidences du CROUS. Voilà. Et parfois dans certains établissements scolaires. Donc il y a eu plusieurs expérimentations qui ont permis d'évaluer un petit peu l'impact et qui doivent aujourd'hui se généraliser, puisqu'a priori les besoins sont réels et les expérimentations ont porté leurs fruits.
Marion Goualave, est-ce qu'on a une évaluation du coût, de quel coût ça aurait de cette mesure de remboursement des protections hygiéniques réutilisables pour les jeunes de moins de 26 ans et les femmes très précaires? Forcément, la question est importante dans un contexte de rigueur budgétaire que veut le gouvernement.
Tout à fait. En fait, on a un coût qui a été estimé pour la première année à 156 millions d'euros, donc sur la première année, avec 93 millions d'euros financés par la Sécurité sociale et 62 millions d'euros financés par les mutuelles et les autres complémentaires santé. Et dès lors qu'on est dans un contrat responsable, la mutuelle a obligation de rembourser. Mais encore une fois, on est toujours dans une attente d'un décret cadré, à la fois sur le volume des protections hygiéniques qui seront remboursées la première année et sur les années suivantes, mais également aussi sur le cadrage de ce coût et des tarifs et du du coût et du prix pardon, des protections hygiéniques qui seront remboursées. Donc, en fait, on reste quand même dans le flou, à la fois sur la forme, qu'est-ce qui va être remboursé vraiment en termes de qualité, de durabilité de produits. Donc, c'est des discussions qu'on a en commun, en effet, avec Mode, mais aussi sur la quantité des produits qui seront remboursés et le coût final de cette prise en charge.
Alors, sur l'intérêt et sur l'impact de cette précarité menstruelle, parce que si on veut faire avancer les politiques publiques, c'est que derrière, ça pose des problèmes. Peut-être déjà sur la santé des femmes, Maude Leblon, qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète de pas pouvoir s'acheter des produits hygiéniques adaptés?
Alors, les conséquences, elles sont vraiment très concrètes, comme vous le dites, effectivement, parce que ne pas avoir de protection menstruelle ne veut pas dire qu'on n'a pas de règles. Donc, ça veut dire qu'en fait, on utilise soit d'autres types de protection qui ne sont pas adaptés, des chiffons, du papier toilette, du papier journal, ou tout ce qu'on peut se mettre sous la main, soit on utilise trop longtemps des protections là où il faut les changer de manière très régulière pour éviter les infections, voire plus. On a déjà entendu parler notamment du syndrome du choc toxique qui est lié notamment à l'usage trop long de protection interne. Donc, il y a des conséquences sanitaires très réelles qui vont de conséquences extrêmement graves, comme un choc toxique, à des conséquences évidemment moins graves, mais très pénalisantes au quotidien. Donc ça, c'est sur les conséquences vraiment sanitaires, mais les conséquences aussi psychologiques et sur le bien-être des personnes, elles sont très importantes. Puisque quand on n'est pas bien protégé, eh ben, on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans des bonnes capacités ou dans des bonnes en bonne situation pour pouvoir travailler, pour pouvoir étudier. Du coup, une majorité de ces personnes, en tout cas, c'est les témoignages que nous, on collecte, préfèrent rester chez elle, préfère manquer l'école, préfère manquer le travail, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Et ça, il faut l'imaginer que c'est de manière très répétée, puisque c'est des cycles qui se répètent en moyenne tous les 28 jours et pendant 40 ans de la vie. Donc c'est pas anodin et ça a un vrai impact. Et comme le disait notre premier interlocuteur auditeur, c'est un vrai facteur d'inégalité, bien sûr en termes de santé, mais aussi d'inégalité entre les de chance et d'opportunité, on va dire, entre les femmes et les hommes.
Alors on a pas mal de messages sur notre messagerie WhatsApp. D'abord celui de Maude qui nous dit « Pour les culottes menstruelles, je ne pense pas que ce dispositif soit pertinent pour les femmes en situation de précarité. Il faut avoir accès à des salles d'eau pour pouvoir laver ses culottes. » Qu'est-ce que vous répondez à Maude, Marion Goilave?
Alors déjà, la culotte menstruelle, c'est un dispositif c'est une culotte qui va remplacer toutes les protections hygiéniques jetables qu'on va utiliser au quotidien. Cette culotte menstruelle-là, en effet, elle doit se laver. Donc, elle doit se porter jusqu'à 12 heures d'utilisation et elle doit se laver après chaque utilisation pour pouvoir être réutilisée. Donc, en effet, il faut avoir accès à un point d'eau et une machine à laver. L'enjeu de la culotte menstruelle, c'est qu'elle reste propre, en fait. Oui, en effet, il faut la laver. On parle de 4 millions de femmes en France aujourd'hui qui ont moins de 26 ans. On ne parle pas d'une précarité extrême.
Oui, c'est aussi des étudiantes qui ont un logement.
Exactement, c'est 31%. C'est une femme sur trois qui est une étudiante qui est en situation de précarité, qui ne peut pas s'acheter des protections hygiéniques. En effet, dans une précarité extrême, la culotte menstruelle n'est pas adaptée parce qu'en fait, il faut qu'elle reste propre.
Il y a un autre message de Marie sur WhatsApp. Il faut, à mon sens, dit-elle, communiquer de façon massive sur les cups menstruels. Il n'y a pas de publicité qui popularise et vulgarise leur utilisation. C'est dommage. Autre question, Marion Goulaf, c'est vrai qu'on a vu peut-être moins émerger finalement ces coupes menstruelles.
Alors, les cups menstruelles sont une alternative de protection réutilisable. C'est un dispositif intravaginal, donc il va venir s'insérer de façon plus ou moins facile et qui va faire, on va dire, si on peut le comparer, qui va être le remplaçant du tampon et donc il ne va pas forcément être adapté à tout le monde et notamment aux jeunes filles qui utilisent beaucoup les serviettes et donc la culotte menstruelle sera bien plus indiquée dans ce cas-là. Mais en effet, les cups menstruels sont aussi une protection hygiénique réutilisable qui fera partie du remboursement, on l'espère.
Allez, nous sommes en ligne avec Ophélie. Bonsoir Ophélie.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute.
Oui, en fait... Je voulais savoir pourquoi il y avait cette limite des 26 ans, sachant que la ménopause n'est pas 26 ans et que la précarité ne s'arrête pas à 26 ans pour certaines personnes.
Maude Leblon, une réponse peut-être? C'est vrai que 26 ans, on se dit, il y a de... Pourquoi cette limite-là?
Alors effectivement, c'était la limite qui avait été annoncée deux ans et demi bientôt, notamment parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce sont les plus jeunes qui sont les plus sujettes à être victimes de précarité menstruelle. Mais effectivement, la question est tout à fait bonne, puisque c'est évidemment la première réaction qu'on a eue, nous aussi, à l'annonce de cette mesure. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement s'est engagé aussi à étendre la mesure à 1,5 million donc de personnes en plus qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc ça répond à une partie du problème. Ça ne considère pas l'intégralité des personnes en situation de précarité menstruelle, mais ça permet d'élargir le spectre de manière quand même intéressante.
Marion Gualave, c'est vrai que c'est un sujet à débat. On pourrait imaginer un remboursement plus global.
Exact, tout à fait. Alors, ensuite, je ne sais pas ce qui se passera une fois que le remboursement sera effectif, mais le seuil des 26 ans, finalement, il est conçu pour cibler l'aide vers des femmes les plus exposées à la précarité menstruelle et généralement les plus jeunes. Donc, tout en s'alignant sur d'autres dispositifs existants, on pourra potentiellement arriver à combler cet écart-là. Mais en effet, le dispositif aujourd'hui, il favorisera l'accès à des protections hygiéniques durables et saines, tout en restant finalement réaliste au regard des contraintes budgétaires qu'on subit aujourd'hui.
Alors, je voudrais vous lire un message de Valéria sur notre messagerie. Pour la toute première fois, alors que je rentrais dans un coworking, j'ai vu sur le bureau d'une jeune femme un paquet de serviettes hygiéniques. Logique et normal, mais très surprenant pour une femme comme moi qui a l'habitude de demander à ses collègues en chuchotant si elles ont un tampon ou une serviette à lui passer. Les choses commencent à changer et c'est tellement bien. Maud Leblond, c'est intéressant parce que ça pose la question du tabou. Parce que si finalement... on en vient si tard peut-être à faire des choses politiquement parlant sur la précarité menstruelle. Est-ce que, selon vous, il y a aussi cette idée qu'il y a eu trop longtemps un tabou autour des règles ?
Oui, bah, il est toujours bien présent d'ailleurs, parce que nous on essaye de le mesurer de manière assez régulière et c'est assez constant malheureusement dans la société française, mais aussi au niveau européen comme on a pu le mesurer là. En gros, une personne sur deux considère que les règles sont taboues, avec un summum pour ce qui est du tabou en entreprise, donc c'est, ou en tout cas dans la vie professionnelle. Donc ça reste vraiment des sujets très très peu abordés et très méconnus du coup, parce que c'est ça aussi les conséquences, c'est que ce sont des sujets très peu connus, ce sont des sujets aussi de désintérêt pour partie, et je pense que c'est une des raisons aussi de la lenteur de la mise en œuvre de ce dispositif, l'autre étant potentiellement la complexité, puisque c'est quelque chose d'assez innovant. Mais en tout cas, on voit bien que ce sont des sujets qui n'intéressent pas en premier chef les grands politiques, ou qui n'intéressent pas en premier chef même, par exemple, les professionnels de santé. Si aujourd'hui on en est à se demander pourquoi les protections périodiques ne sont pas réglementées, et pourquoi on retrouve autant de produits potentiellement toxiques dedans, alors qu'on les produit, on les utilise de manière massive depuis 50 ans, ça veut aussi dire que personne ne s'est intéressé à ce sujet. Et ça, c'est des conséquences très concrètes du tabou. D'autres étant, évidemment, autour de tous les enjeux de santé, la banalisation notamment de la douleur, ou en tout cas le désintérêt aussi pour l'expression de la douleur des personnes qui en ont pendant leurs règles, et qui expliquent aujourd'hui, par exemple, les normes et injustifiées, injustifiables, errance médicale, notamment, par exemple, pour le diagnostic de l'endométriose. Mais il y a aussi d'autres pathologies. Donc, évidemment, le tabou est très persistant. Et j'ai envie de dire, c'est presque étonnant, puisqu'on pourrait croire que depuis une dizaine d'années maintenant, ces sujets sont de plus en plus adressés, y compris au niveau national. Et pourtant, ça reste des sujets. Enfin, le tabou est vraiment très, très, très ancré, très historique, et il va falloir probablement encore beaucoup d'années pour le faire évoluer. En tout cas, nous, ce qu'on prône et ce qu'on essaye de mettre en place, notamment, c'est une éducation généralisée aux règles, parce que c'est notamment parce qu'on ne connaît pas les sujets qu'on a peur d'en parler. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire dans les classes. Et depuis la fin de l'année dernière, l'éducation aux règles, donc l'éducation menstruelle, fait partie des programmes scolaires d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les CM2 et les 6e. Et donc à partir de la rentrée prochaine, normalement, les élèves de CM2 et de 6e auront en mixité un enseignement adapté à leur âge, évidemment, sur les règles, les conséquences et l'impact que ça peut avoir sur la vie des personnes.
Alors peut-être avant de revenir sur cette question d'éducation, Marion Gualave, c'est vrai qu'on a vu pourtant sur les réseaux sociaux notamment apparaître des comptes qui parlent davantage des règles. Ça reste de surface.
Ça reste de surface. Après, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux à la consommation des réseaux sociaux. Et c'est aussi un tabou qui est générationnel, qui va être culturel, qui va être religieux. On va plus ou moins parler de façon égalitaire des règles dans une famille ou dans l'autre. Et c'est vrai qu'on va avoir des jeunes femmes qui vont se retrouver en précarité menstruelle parce qu'elles n'osent pas parler de leurs règles, parce qu'elles n'osent pas dire qu'elles n'ont pas de protection hygiénique. Nous, en presque 7 ans d'activité, on a rencontré beaucoup de femmes qui, en effet, se sont isolées, se sont exclues d'un groupe parce qu'elles n'ont pas de protection hygiénique, parce qu'elles ont des douleurs. Et tout ça, en fait, ça peut aussi retarder des diagnostics tels que l'endométriose, tels que le SOPK, etc. Parce que avoir ces règles, jusqu'à présent, c'était rester un peu dans son coin et attendre que ça passe. Et puis, c'est normal, entre guillemets, d'avoir mal quand on a ces règles. Et tout ça, c'est des tabous qu'on essaye tous collectivement, et ce que fait aussi Réglementaire très bien, de démystifier en parlant simplement, en donnant des termes précis. On parle des règles, on parle de menstruation, on parle de précarité, on met des mots sur des organes, on met des mots sur des situations. Et puis ça va venir un peu alléger la discussion et en faire un sujet finalement anodin, comme il devrait l'être. Et comme le devrait être aussi le remboursement des protections hygiéniques, puisqu'en fait, ça touche la moitié de la population et ça impacte finalement au quotidien les femmes.
Maude Leblond, vous qui faites de la sensibilisation dans les collèges, comment on parle aux enfants des règles pour que ça soit quelque chose de naturel ?
Eh ben, la réponse est dans la question. On parle naturellement avec les bons mots. Ouais. Nous, on essaie. Alors, vous parlez des collèges. Nous, on intervient aussi beaucoup en école primaire. Je le disais, il y a de plus en plus. Enfin, l'âge des premières règles avance et continue d'avancer, ce qui est aussi une question un peu plus générale. Mais en tout cas, les conséquences très concrètes, c'est qu'il y a des jeunes élèves qui arrivent en CM1, CMD avec leurs règles, qui n'ont jamais été préparés à ça. Les enseignants non plus, les parents encore moins. Et donc, ça peut faire des situations vraiment très traumatisantes. Donc, nous, on amène les sujets, évidemment, avec les mots qui parle à ses enfants, mais avec les vrais mots, notamment les mots d'anatomie, puisque c'est aussi ces sujets-là dont on ne parle pas et qui font que forcément, quand on comprend pas son corps et qu'on ne le connaît pas, on a des difficultés à comprendre ce qui s'y passe et comment ça peut avoir de telles conséquences. Et on lit évidemment ça, notamment pour les plus jeunes, tout ce qui est le rapport au corps, la question du consentement, de l'intimité, etc. On a de la puberté, bien entendu, dans un second temps. On n'anticipe jamais les questions des enfants et on essaye d'apporter les mots justes avec différents outils pédagogiques et progressifs, évidemment. On ne parle pas de la même manière à un élève qui va être en CM1 d'un élève lycéen, bien entendu, mais pourtant, le sujet reste là. Et étonnamment, ou pas étonnamment d'ailleurs, c'est avec les enfants les plus jeunes qui a le moins de tabous, notamment parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion en fait de ne pas parler de ces sujets, puisque généralement, ils ne les ont pas encore vécus. Et donc, c'est aussi très intéressant de pouvoir anticiper ces moments-là pour que le tabou ne se crée pas finalement au moment de la puberté, parce que les enfants n'auront pas les mots pour décrire ce qui leur arrive, ou n'auront pas les sensations, les émotions, ne pourront pas partager leurs sensations et leurs émotions.
J'ai un message de Pascal qui est très intéressant par messagerie WhatsApp. Il me dit « Je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi pour les hommes. J'ai 52 ans, je n'ai aucun souvenir d'avoir reçu une quelconque information sur les règles des femmes dans mon éducation. » C'est une question intéressante parce qu'il faut aussi, on dit aussi souvent qu'il faut parler aux filles, apprendre aux filles leur corps, leur anatomie. Il faut aussi parler aux garçons, Marion Goualave.
Tout à fait, c'est un sujet public finalement, puisque c'est un sujet physiologique. Enfin, toutes les femmes ont leurs règles, enfin en tout cas les personnes menstruées ont leurs règles très régulièrement. Et en fait, c'est un sujet de société. David le rappelait aussi tout à l'heure. Ça fait partie du cycle naturel de chaque femme. Et en fait, c'est vrai que ça fait partie du cycle de la vie aussi. Donc, il y a aucune raison que ce soit un sujet tabou. Pour revenir à ce sujet-là, c'est vrai que il y a une association des règles, et notamment, on fait aussi des interventions dans des écoles, et il y a un rejet parfois des parents sur cette éducation autour du cycle menstruel, parce qu'il est souvent lié aussi à la sexualité, à l'entrée des jeunes filles dans la sexualité, et en fait, ça va créer des tabous supplémentaires. Et donc, en fait, c'est aussi peut-être pour ça que, historiquement, on n'a pas eu d'éducation autour des cycles menstruels pour les hommes et pour les femmes, enfin pour les garçons et les filles, pour tout le monde, parce que ça restait vraiment un sujet très féminin. Tu as tes règles, tu n'en parles pas, si tu as mal, c'est normal. Et puis, ça ne regarde que toi, en fait. Ouais. Finalement, ça regarde tout le monde.
Ouais. Maude Leblond, il faut parler aux petits garçons aussi, justement, alors apprendre à ces jeunes qu'il faut être empathique avec les filles à côté d'eux.
Oui, tout à fait. Et c'est comme ça que nous, on intervient, en tout cas. Et c'est comme pour ça qu'on est très heureuse aussi d'avoir pu inscrire ça dans les programmes de l'éducation nationale pour assurer que ce soit une éducation, justement, collective. Finalement, les enjeux pour nous, ils sont moins physiologiques, on va dire, même si, évidemment, on rappelle ces enjeux-là, que sociétaux, comme on le disait. Donc, comprendre, voilà, ce que sont les douleurs, comprendre l'usage des différentes protections, comprendre les enjeux écologiques autour de ces sujets, comprendre l'impact de la précarité menstruelle, ça nous semble essentiel que ce soit partagé par les garçons, par les filles, et j'ai envie de dire par les enseignants et enseignantes, par les parents quelquefois aussi, on l'a dit, qui sont aussi méconnaissants que leurs enfants, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais reçu cette éducation. Et quand bien même la parole est libérée finalement dans les familles, ce qui peut être le cas, c'est souvent la seule expérience de la mère qui fait foi, entre guillemets, alors que les expériences sont vraiment multiples et variées. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire entendre aux enfants, parce que souvent, on va se dire, oui, les règles, on sait ce que c'est saigner 5 jours tous les 28 jours et avoir un petit peu mal. Mmh. Bon, en fait, ce cas-là, il est quand même très rare. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de craintes qui se créent chez les jeunes. Et nous, on a souvent des questions qui sont plutôt du type, est-ce normal? Si j'ai ça, est-ce que voilà? Et donc, nous, on a essayé de créer un discours, créer des outils aussi. J'invite d'ailleurs tous les parents qui le souhaitent et les jeunes qui nous écoutent à aller sur une plateforme qu'on a créée spécifiquement pour ça, qui s'appelle parlonsregles.fr, où on a fait des contenus éducatifs pour les jeunes, mais aussi pour les parents et les enseignants. Et on a aussi créé un petit chatbot qui s'appelle Timmy et qui répond aux questions des enfants pour pouvoir justement les rendre plus sereins, parce que, comme disait Marion, pour la plupart des personnes, avoir ces règles, c'est banal et c'est normal. Et évidemment, pour d'autres, c'est des situations soit de précarité, soit pathologiques qui doivent être diagnostiquées et prises en compte, mais sinon, ça reste quelque chose de très très normal et ça devrait être... voilà, ça ne devrait pas être un sujet.
Nous sommes en ligne avec François de Nantes. Bonsoir François.
Bonsoir.
Vous avez une question, je crois, pour nos invités.
J'avais une question. Alors, pour être tout à fait honnête, je la pose au nom de ma femme qui est trop timide pour passer à la radio. Elle se demandait si cette compensation à la précarité menstruelle telle qu'elle existe en France depuis deux ans et demi maintenant, était quelque chose exclusif à la France et qui tient de l'initiative féministe et de lutte contre la pauvreté, ou alors est-ce qu'elle existe dans d'autres pays?
Alors, elle n'existe pas encore en France, hein, puisqu'il n'y a toujours pas d'application, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on retrouve ce genre de dispositif, Maud Leblon, dans d'autres pays, peut-être européens?
Alors depuis, oui, il y a la Catalogne qui l'a expérimenté et qui l'a mise en place d'ailleurs sur des formats, on va dire, à peu près similaires, même si évidemment, là, comme c'est lié à notre organisation de sécurité sociale, les choses sont un peu différentes, mais c'est à ma connaissance le seul endroit, du coup c'est pas vraiment un pays, mais où c'est mis en place. Par contre, il y a eu d'autres dispositifs, notamment en Écosse, qui a été un des premiers pays à s'engager de manière très intense contre la précarité menstruelle, mais qui lui a choisi plutôt de généraliser la mise à disposition des protections jetables, qui est une autre forme finalement de lutte contre la précarité menstruelle, puisqu'à partir du moment où on trouve des protections dans son établissement scolaire, au travail, dans les établissements publics, dans les restaurants, etc., ça réduit de fait la précarité menstruelle. Nous, on pense sincèrement que ces deux mesures sont complémentaires, que finalement, ça devrait être normal d'avoir accès à des protections périodiques, au même titre finalement qu'on a accès à du papier toilette, ça choque personne que les établissements publics ou les restaurateurs nous mettent à disposition du papier toilette. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on porte et qui se généralise d'ailleurs de plus en plus en France.
Ça existe, j'allais dire, dans certains endroits.
Exactement. C'est pas encore généralisé au sens ni parce que l'État l'a décidé, ni parce qu'il y a eu des expérimentations, mais de plus en plus de collectivités, par exemple, mettent à disposition, de plus en plus d'établissements scolaires et de particuliers, ou on va dire de commerçants, de restaurateurs, d'endroits sportifs. Et d'ailleurs, nous, on les recense, j'en profite aussi pour vous le dire, sur une application qui s'appelle Regla, regla.app, où on peut géolocaliser, du coup, toutes les mises à disposition de protection.
Allez, nous sommes en ligne avec Bénédicte. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi je voulais apporter surtout mon témoignage. Ça fait 2 ans maintenant que je me suis fait opérer d'une forme d'endométriose, beaucoup plus importante que l'endométriose, qui s'appelle l'adénomyose. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est vraiment... des règles très 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 abondantes et très douloureuses et malheureusement à l'époque je n'avais pas assez de moyens pour me payer toutes les protections nécessaires et je pense que vraiment cette mesure comme quoi il faudrait rembourser quand même les protections hygiéniques, c'est très important parce que vraiment dans le cas d'une endométriose ou d'une adénomyose comme je vous dis c'est C'est quand même un très gros budget mensuel, c'est parce que c'est parfois pas seulement 5 jours, ça peut aller de 10 à 15 jours les règles et enfin voilà quoi. Moi j'ai eu la chance de pouvoir me faire opérer parce que vraiment c'était devenu insupportable, donc pour ça je soutiens vraiment les personnes qui veulent lancer ce décret comme quoi faudrait vraiment rembourser des protections hygiéniques.
Merci beaucoup, Bénédicte, pour votre témoignage. C'est vrai, Marion Goualave, on n'y pense pas forcément. Cette maladie, l'endométriose, peut rallonger considérablement le temps de règles et en fait se trouver avec des gens comme Bénédicte qui, c'est un peu la double peine, hein, c'est-à-dire est malade et en plus il faut payer beaucoup plus que les autres pour pouvoir se protéger correctement.
Tout à fait, c'est aussi ce qui est à l'origine de la création d'Elia, la culotte menstruelle en tout cas. Mmh. Je suis moi-même atteinte d'endométriose et d'adénomyose et j'ai fait un parcours PMA très très long. Je fais aujourd'hui partie du comité exécutif de la Fondation de recherche contre l'endométriose. Et en effet, aujourd'hui, l'endométriose, ça va être des cellules semblables à de l'endomètre qui doit se retrouver dans l'utérus, qui vont migrer ailleurs que dans l'utérus. Et l'adénomyose, c'est un peu la petite cousine de l'endométriose. Ça va être des cellules qui vont se retrouver dans la paroi utérine, dans les muscles utérins. Donc vraiment pour vulgariser un petit peu cette définition-là. Et ça va créer des règles très abondantes et très douloureuses. Et parfois des règles anarchiques. Alors il y a autant d'endométriose et d'adénomyose que de femmes. C'est bien la difficulté qu'on a du diagnostic. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de lever un tabou autour des règles. Qu'on puisse poser des mots sur des douleurs, poser des mots sur des ressentis et des sensations. Et en effet, quand on a ces deux pathologies ensemble, on peut se retrouver à utiliser des protections hygiéniques tous les jours.
Ouais.
Et parfois pas adaptées. Pas adaptées au niveau du flux, pas adaptées au niveau de l'absorption, notamment celles qui utilisent des tampons tous les jours parce qu'elles ont peur d'avoir leurs règles ou parce qu'elles ont des flux plus ou moins abondants. Ben on peut se retrouver à avoir un microbiote vaginal complètement déréglé, des infections, des mycoses, etc. Donc en effet, ce décret-là, quand il sortira, et les culottes menstruelles, quand elles seront remboursées, aideront énormément de personnes à mieux vivre au quotidien, à la fois d'un point de vue économique, mais d'un point de vue confort, parce que la culotte menstruelle, en tout cas, certaines sont bien plus confortables que le reste des protections hygiéniques.
Allez, un message d'Agnès. Concernant la précarité menstruelle, en région Hauts-de-France, nous raconte-t-elle, des lycéennes de Doulins, j'espère que je prononce bien, avaient initié un distributeur de protection hygiénique gratuite au sein du lycée. Le procédé a été généralisé, sauf que dans les lycées de la Somme, ce sont aux lycéennes et à leurs familles d'approvisionner ces distributeurs sur leur fonds personnel. À quand, nous demande Agnès, les distributeurs gratuits Maude Leblon, vous le disiez, ça serait une très bonne mesure complémentaire d'avoir dans les établissements scolaires des distributeurs.
Oui, d'ailleurs, ça faisait partie, alors on n'a pas lu forcément toutes les petites lignes, mais de l'annonce qu'avait fait donc la ministre Borne à l'époque, c'était en plus du coup du remboursement des protections réutilisables, de favoriser la mise à disposition généralisée, notamment dans les établissements scolaires. Après, les moyens sont limités pour l'État, parce que voilà, ça incombe aux départements, aux régions, en fonction des établissements scolaires. Il y a eu pas mal d'initiatives. Nous, on avait recensé qu'il y a un an et demi, la moitié des lycéens et des lycéennes avaient accès aux protections périodiques, mais de volonté diverses, on va dire. Cependant, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on observe maintenant un recul. Je prends un exemple, la région PACA, qui avait équipé tous ses lycées de protection périodique en 2023, a décidé cette année de ne pas renouveler le contrat et de ne pas remplir de nouveau les distributeurs, qui, je pense, existent toujours. Et donc, voilà, donc l'année, à la rentrée prochaine, les lycéennes de la région PACA n'auront plus accès gratuitement à des protections périodiques dans leur établissement, sachant que le coût estimé de cette mesure était de 80 centimes par an et par lycéenne. Donc,
très
ça peut vraiment question... Très peu, mais du coup, dans un contexte de restrictions budgétaires qu'on connaît tous, on voit vite que ces sujets, c'est là où j'insiste aussi, le tabou génère du désintérêt. On se dit, bon, voilà, ça, en fait, ça vaut pas la peine. Et alors que je pense bien que l'évaluation d'impact d'une telle mesure est assez simple, on voit que les distributeurs sont vides, on sait que ces jeunes filles ont leurs règles, je pense que l'intérêt de la mesure est assez évidente. Néanmoins, elle est retirée et voilà. Et on a observé ça dans d'autres départements et ce de plus en plus, ce qui nous inquiète aussi. C'est pour ça qu'il faut maintenir aussi l'intérêt et la communication autour de ces thématiques.
Peut-être juste une précision sur l'endométriose, Marion Goualave, ça fait vraiment partie des sujets où on sait qu'on a beaucoup tardé en parler. parler et avec du coup des témoignages comme on a eu ce soir qui montrent que c'était tardif. Est-ce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a une prise de conscience selon vous? Est-ce qu'il y a des recherches qui s'organisent aujourd'hui pour essayer justement de, d'apporter des solutions aux femmes qui ont de l'endométriose?
Alors la solution principale c'est en tout cas d'en parler. C'est que chaque jeune femme ou femme qui a des douleurs pendant ses règles ou pendant son cycle menstruel, donc la totalité de ces 28 jours, en parle et en parle à un professionnel de santé qui soit prêt à l'écouter et qui soit potentiellement formé à l'endométriose. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le diagnostic. Jusqu'à présent, un diagnostic peut prendre jusqu'à 7 ans. On va découvrir l'endométriose parce qu'on a un problème de fertilité, parce qu'on a des douleurs, potentiellement un kyste. L'enjeu, c'est vraiment de se tourner vers des professionnels de santé qui savent adresser cette pathologie. Donc ça, c'est le point majeur, c'est en parler, lever un tabou autour de ce sujet-là. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs pendant ces règles, ou en tout cas des douleurs handicapante. Et donc, il faut adresser le sujet.
Il faut en parler.
Il faut en parler.
À ces médecins. Merci beaucoup à nos invités. Marion Goualave, cofondatrice d'Elia, vous commercialisez des culottes menstruelles fabriquées en France. Et puis, Maude Leblond, merci beaucoup, directrice de l'association Règles élémentaires. Demain, dans le téléphone sonne, on parlera de la France qui suffoque. Comment bien se protéger du soleil? 19h59 sur France Inter, la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Méline, j'ai 7 ans. Je voudrais vous poser la question, pourquoi les globules blancs ne réussissent pas toujours à tuer les microbes? Merci.
Merci et ta réponse, ça sera après le flash de 20h.